Nzamba.
Nzambira samirana.
Le journal avec Franck Kadze.
Nous sommes mercredi 17 novembre 2021. Vous êtes bien sur la radio Nzamba Agathe Kakawe. Et c'est l'heure du journal. D'abord les titres. Nombreuses réactions après la présentation par la police hier de personnes montrées comme des rebelles et des collaborateurs de rebelles. C'est le cas des parents d'un de ces derniers qui protestent contre cette désignation ou encore de l'ONG Focodé qui, elle, parle de mensonges. Et puis, le Covid-19 dans les murs du cachot du commissariat de police à Muyinga, pas moins de 10 détenus ont été testés positifs. 5 mois sans percevoir leur salaire, ce sont les agents du service des titres fonciers qui réclament leur dû. Voilà pour les titres, à toutes, à tous, bonjour, bonsoir, bienvenue.
Suivez les émissions de la radio Nzamba en direct sur le www.nzamba.org.
La famille de l'étudiant Aristide Ilangavillé dénonce un montage orchestré contre ce garçon. Aristide Ilangavillé a été présenté par les services des renseignements comme collaborateur des groupes rebelles armés. Ses proches demandent qu'il soit libéré pour qu'il poursuive ses études universitaires. Le point avec Vanessa Mouiteka.
Cinquième attaque, c'est l'attaque du 18 mai 2021 à Fota.
Parmi les éléments du groupe rebellé exhibés à la presse figure un jeune lauréat des humanités générales, Aristide Ilangavillé. Le porte-parole du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique affirme que les enquêtes ont révélé que ce jeune était un pisteur du groupe qui menait des attaques récentes dans la province de Mngaro. Pierre Moulikié, porte-parole.
L'enquête sur ce cas a révélé que cet acte terroriste a été commis par le nommé Alain Bashirahishize, toujours Godefroy Nyonguru, Jean-Petit Nduimana et leur pisteur du Nodo Aristide Ilangavillé, celui qu'on vous a montré ici.
Ces accusations sont réfutées par la famille du jeune Aristide Ilangavillé, originaire de la zone Vudzachanda de la commune Ndava, dans la province de Mngaro. Quand il a entendu que son fils a été présenté à la presse avec d'autres éléments des groupes armés n'ayant ni sa trace ni son lieu de détention depuis le début du mois d'octobre, la famille est éprouvée d'angoisse pour le moment.
Vraiment, c'est un mensonge au nom de Dieu. Cet enfant restait à côté de ses parents. Aristide est resté à côté de ses parents. Il a mis son pied à Bujumbura quand il partait s'enregistrer à l'université. Ils répondront de cet acte devant Dieu, franchement devant Dieu, franchement.
Aristide Ilangavillé, lauréat des humanités générales, se préparait pour débuter sa première année à l'université. Sa famille croit à un montage et n'écarte pas un achat de conscience à son fils afin de se culpabiliser.
Je crois qu'on a acheté sa conscience. Non, ses dires sont loin de sa personnalité. Non, vraiment, qu'on le pardonne. Aristide, sa conscience a été franchement rachetée.
Rappelons qu'Aristide Ilangavillé avait été arrêté par Eliphaz Niongabo, le responsable du service des renseignements à Mngaro, après que son cousin, doyen des élèves au lycée Mngaro, son père et son oncle, ancien militaire en retraite, tous avaient été arrêtés et emprisonnés au début du mois d'octobre passé, avant d'être libéré.
Autre réaction, c'est celle de Pacifique Nina Azoué. Le coordonnateur du programme d'Ondesa qualifie de mensongère les conclusions du rapport d'enquête sur les récentes attaques armées. Il s'agit des révélations faites par le porte-parole de la police Pierre Moulikié ce mardi. Celui-ci venait de montrer à la presse les présumés responsables de ces attaques, y compris les 19 rebelles du mouvement Red Tabara, remis au Burundi par le Rwanda, Georges Niyemenya.
Ce mardi, Pierre Moulikié, porte-parole du ministère de l'Intérieur, a présenté à la presse les personnes accusées d'avoir commis 8 attaques sur le sol burundais. Ces attaques ont emporté plusieurs personnes selon Moulikié. Parmi ces malfaiteurs se trouve Alain Bashirahishize, tué le 22 juillet à Kinindo.
Le chef c'est Alain Bashirahishize, connu sous le pseudonyme d'Okiduga, Didier et Franck, et il a été anéanti en date du 22 juillet 2021 à Kinindo. alors qu'il venait de lancer une grenade sur des policiers.
Pour Pacifique Elina Azoué, responsable du programme Ndondeza, Areva Shiraishize n'a pas été tué à Kinindo. Pacifique indique qu'il s'agit par contre d'une exécution extrajudiciaire perpétrée ailleurs qu'à Kinindo.
Ces informations nous semblent inexactes parce que d'abord elles sont données 4 mois après les faits. Cela nous étonne parce que d'habitude la police communique dès le lendemain d'une opération qu'elle a menée. Deuxièmement, il n'y a eu aucune autre information, aucun média n'a évoqué en cas d'une personne tuée à Kinindo le 22 juillet 2021, alors que l'information sur l'explosion d'une grenade a été évoquée dans la presse. Pour nous, ceci signifie qu'Alain Bachiraïsé a tout simplement été arrêté par la police et qu'il a été exécuté par après.
Pacifique Nina Azoué précise que d'autres membres de la famille de Bachiraïsé ont été arrivés et personne de la famille ne sait où ils sont.
2 jours après le retour d'Alain Bachiraïsé à Bujumbura, son cousin Richard Chimilimana a été enlevé par des éléments du renseignement militaire le 21 septembre 2020 à Mutakura, à la 3e avenue. Et depuis ce moment, Richard Chimilimana n'a jamais été retrouvé. Et quelques mois plus tard, le 8 avril 2021, le grand frère d'Alain Bachiraïsé, un certain Martin Bachiraïsé, a également été enlevé par des éléments du renseignement militaire sur l'avenue de la JRR dans la ville de Bujumbura. Et depuis ce moment, Martin Bachiraïsé n'a pas également été retrouvé.
Son responsable de programme, Ndondeza, demande au renseignement militaire au service national de renseignement de dire à la famille Bachiraïsé où sont les leurs.
Souvenez-vous, en septembre dernier, des jeunes Imbonerakure accusés d'avoir lancé des grenades ont été arrêtés. Ils ont ensuite été sommairement exécutés par des policiers. Une attitude qui laisse croire que la police voulait, dès le départ, désorienter l'opinion dans ces enquêtes. Beni Akselakana nous en dit plus.
La première victime de ces exécutions extrajudiciaires est le nommé Dieudonné Habonimana. Le soir du lundi, le 27 septembre 2021, une grenade a explosé dans la localité dénommée Kiwembe du quartier Kizingwe Bihara, dans la zone Kanyosha, au sud de la ville de Bujumbura. L'explosion a coûté la vie d'un enfant de la localité, blessant plusieurs autres. Le présumé auteur de ce jet de grenade a été directement appréhendé par les habitants de la localité. Il a été vite reconnu. C'était Dieudonné Habonimana. Imana, un Imbonerakure du quartier Gissio de la même zone de Kanyosha. Au quartier Gissio, Dieudonné Habonimana apparaissait souvent dans les activités du parti au pouvoir, le CNDD-FDD au quartier. Après son arrestation, il a été conduit au cachet de la zone Kanyosha pour interrogatoire. Il a été interrogé en présence de plusieurs autorités policières, entre autres le commandant zone et le commissaire municipal. Les sources de la radio Inzamba au sein de certains policiers à Kanyosha font savoir que Dieudonné Habonimana n'a pas nié ses accusations. Au moment où il était en train d'énumérer les noms des autres Imbonerakure qui commettent ce genre de forfait, il n'a pas été autorisé de continuer à révéler plus. Tout à coup, les policiers lui ont frappé violemment au niveau de la tête et il est mort sur le champ. Mardi le 28 septembre 2021, vers 19h, un Imbonerakure nommé Nestor Ndagijimana, alias Rasta, a fait exploser une grenade dans un bistrot situé sur la colline Bugizo de la zone Negatumba, en commune Mutimbuzi de la province Bujumbura. Imbonerakure venait de se chamailler avec le propriétaire de ce bistrot, nommé Joseph Balanderekeye. L'explosion a fait 2 morts, occasionnant 4 blessés. La police est vite intervenue, procédant tout de suite à l'arrestation de Nestor Ndagijimana. Après un petit moment, les gens de Katumba ont entendu des tirs. Le lendemain, le porte-parole de la police, Pierre Mulikiye, a annoncé sur la voie des ondes que les policiers ont fusillé Nestor Ndagijimana quand il tentait de s'évader. Samedi le 23 octobre l'an 2021, entre 19h et 20h, une grenade a explosé à la 2e avenue du quartier Nyamugali, dit quartier Swahili de la ville de Gitega. L'explosion a fait 7 blessés, parmi eux, un certain Gérard Bukuru, surnommé Bekele. Les blessés ont été vite évacués au centre de santé, se trouvant tout près de la paroisse catholique Saint-Sauveur, Kumuchunguzi, non loin du lieu de l'explosion. Le nommé Prosper Nyonizigiye, quand il a reçu l'information que son ami Gérard Bukuru, dit Bekele, était parmi les blessés, il est allé au centre de santé pour l'encourager. âgée. Après un laps de temps, surgit des policiers sous le commandement du chef de poste zone urbaine de Gitega, Sylvestre Nyonguru, surnommé sans erreur. Il était avec certains Ibonelakure de Gitega et le responsable du service national des renseignements à Gitega, OPC 1 Zabulon Franzima, ainsi que le chef du quartier Nyamugali. Gérard Bukuru, surnommé Bekele, a été retiré du centre de santé où il était en train de se faire soigner. Il a été violemment battu avec son ami Prosper Nyonidigye qui venait l'encourager au service des urgences. Gérard Bukuru a été embarqué dans le véhicule du chef de poste Sylvestre Nyonguru, surnommé sans erreur, et Prosper Nyonidigye, son ami, dans le véhicule d'OPC 1 Zabulon Fulanzima. Quelques heures après, le corps sans vie de Gérard Bukuru a été retrouvé dans la vallée de Gisukilo sur la colline Jimbi de la commune Gitega. Le corps sans vie de Gérard Bukuru présentait des signes de quelqu'un qui a été fusillé au niveau du front avec orifice de sortie au niveau de la tête. Gérard Bukuru est un Ibonelakure du parti CNDD-FDD. Il était connu à Gitega comme commerçant d'estriperie au marché de Gitega. Son ami Prosper Nyonidigye n'a pas encore réapparu. Selon certains observateurs, tous les trois ont été victimes des exécutions extrajudiciaires.
Inzamba. Suite de ce journal avec l'arrestation tôt le matin de ce mercredi d'un membre du parti CNL du nom de Matata Augustin. Il habite dans la zone Gatumba en commune Mutimbuzi dans la province de Bujumbura. Il a été arrêté par Chimaye, le responsable du service des renseignements dans cette province. Les informations à notre disposition indiquent que son épouse a également été arrêtée quelques heures après Josine Kazé.
Selon les informations recueillies à Gatumba, Matata Emmanuel a été arrêté par le responsable du SNR dans la province de Bujumbura, connu sous le nom de Chimaye. Il a été embarqué par le véhicule de ce responsable immatriculé D3974A. Les mêmes informations révèlent que quelques heures après, son épouse a été elle aussi arrêtée par le service des renseignements qui l'a embarqué dans le même véhicule. Selon certains membres du parti CNL, le service des renseignements a changé de tactique pour arrêter ou enlever les membres de ce parti, comme le témoigne ce militant.
Nous demandons vraiment avec beaucoup d'insistance pouvoir en place, si réellement il respecte la loi et les droits de l'homme, de cesser de tuer son peuple. Nous le demandons parce qu'il vient de passer à une autre étape. Aujourd'hui, il a changé de stratégie. Le service national des renseignements utilise certains agents des corps de défense et de sécurité. Ils se font passer pour des taxis vélos. Quand ils vous déplacent, ils commencent à vous poser des questions concernant la façon dont vous apercevez le parti et le pouvoir en place, juste pour savoir votre position, pour vous arrêter par après. Il faut que ça cesse.
Vous saurez que cette arrestation de Matata Emmanuel et son épouse intervient à moins d'une journée après celle de Matata Augustin, en haut cadre du parti CNL, arrêté ce mercredi soir en commune Issalé dans la province de Bujumbura. Depuis, sa famille n'a pas de ses nouvelles. Face à toutes ces arrestations, la rédaction de la radio Inzamba a contacté sans succès Pierre Moulikier, porte-parole du ministère de la Sécurité publique.
Et puis, découverte hier d'une mine antipersonnelle et d'une paire de bottines militaires sur la colline Mujigo, commune Buyengero en province Lomangé. C'est un Ibonelakure, responsable du parti CNDD-FDD sur cette colline, qui les a trouvés. Ces objets étaient cachés dans un four en briques dans la localité de Kuishui. Mais selon des riverains du lieu où la mine et les bottines ont été trouvées, il pourrait s'agir d'un montage pour trouver des boucs émissaires. Ils demandent des enquêtes approfondies sur la découverte de ces objets. Josephine Jones-Mundimana.
Selon des sources se trouvant sur place, Alexis Agavimana, secrétaire collinaire du CNDD-FDD à Mujigo, a été le premier à montrer ses munitions. Ce responsable du parti présidentiel sur la colline Mujigo est venu en courant et s'est directement dirigé vers le four où visiblement il y avait un repère pour ne pas oublier cette cache. Il a par la suite appelé plusieurs autres Ibonelakure, explique des témoins. Des policiers qui étaient prêts sont venus sur le lieu et ont constaté une mine antipersonnelle et une paire de bottines emballées dans un sachet. En présence des policiers, Alexis Agabimana a expliqué qu'une femme de la Ligue des femmes de la localité lui avait signalé la présence des objets suspects dans ce four. Les gens de cette localité affirment qu'ils n'ont jamais vu et ne connaissent pas une mine antipersonnelle. Ils trouvent que c'est un montage et qu'ils seraient en train d'être préparés pour réprimer les opposants.
Oui, il est venu, oui, en courant et il a appelé d'autres membres de la Ligue des femmes grave, il va pouvoir faire une bonne soirée. Et ils ont appelé la police, mais ce qu'il a fait, c'est pire mental. On le connaît dans ses œuvres de montage, nous pensons qu'il veut fomenter quelque chose pour pouvoir aller incarcérer les gens, surtout les policiers, comme il a l'habitude de le faire.
Les habitants de cette localité demandent aux instances judiciaires et policières de faire des enquêtes minutieuses à propos de ces munitions, en commençant par ces derniers pour expliquer l'origine de ces munitions. Radio Inzamba a essayé de joindre par téléphone Gracien Douai, administrateur de la commune de Buyengero, pour lui demander des éclaircissements sur la découverte de ces munitions, mais sans succès.
Grogne chez les employés du service des titres fonciers. Ils viennent de passer 5 mois sans percevoir leur salaire. À l'origine, c'est la fusion de ce département avec celui du cadastre. Par ailleurs, ces mêmes agents disent ne plus bénéficier des soins de santé auprès de la mutuelle de la fonction publique à cause des impayés de leur employeur. Ils demandent au président de la République de prendre cette question à main. Prosper Ndissavila nous fait le point.
Comme l'indique l'un de ses employés du service et des titres fonciers, ils approchent bientôt 5 mois sans toucher leur salaire mensuel. Quand ils demandent la raison à leur employeur, les arguments ne sont pas convaincants.
Nous approchons le 5e mois sans salaire. On a fusionné le service des titres fonciers avec celui du cadastre. Ça devient difficile. On attend la même liste avec celle du cadastre. Nous avons contacté des crédits dans des banques. Beaucoup parmi nous, nous sommes des locataires des maisons. Aussi, nous avons envoyé nos enfants à l'école. D'où viennent ces moyens? On avait épargné, mais nos poches restent vides.
Aussi, ces derniers jours, ces employés ne reçoivent pas des soins de santé comme il faut auprès de la mutuelle de la fonction publique suite aux dettes encaissées par l'employeur.
La mutuelle de la fonction publique refuse de nous faire des cartes mutuelles biométriques. Même ceux qui le possèdent ne sont pas soignés normalement. Le motif serait les dettes encaissées par notre employeur. Nous demandons l'intervention du président de la République. Les titres fonciers ne sont pas comme la société Onatel tombée en faillite. Nos entrées dans la caisse de l'État sont évidentes. Qu'on soit rétabli dans nos lois.
À ce sujet, nous avons essayé de joindre par téléphone Salomon Ibigira, le directeur de titres fonciers, mais sans succès.
Et avant de poursuivre notre édition, passons à cet appel du Forum des diasporas burundaises de l'Europe. C'est la sensibilisation sur l'importance du respect des mesures barrières et de se faire vacciner contre le Covid-19. Suivez Cassien Nibaruta, il est membre du conseil d'administration du FODIB.
Tous les pays du monde, sans exception, ont été et sont toujours touchés par l'épidémie du coronavirus. Depuis décembre 2019 est apparue cette épidémie qui a tué énormément de personnes à travers le monde et au Burundi aussi et qui malheureusement continue à l'heure actuelle à tuer. Dès que les vaccins sont apparus, des programmes de vaccination ont été mis en place dans tous les pays en coopération avec l'OMS pour essayer de lutter contre cette épidémie parce que c'est actuellement le moyen le plus efficace dont on dispose. Certains pays sont en avance, d'autres le sont moins. C'est pourquoi le FODIB voudrait vous demander d'aller vous faire vacciner massivement, car c'est le seul moyen pour ralentir l'épidémie. Certes, il y a les gestes barrières, se laver les mains souvent, la distanciation sociale, le port du masque, mais ce sont des outils qui viennent en complément au vaccin. Quand on est vacciné, on peut attraper le coronavirus, mais on ne développe pas les formes graves de la maladie. On peut transmettre aussi, mais moins. Sans faire ce geste, on risque de déplorer un grand nombre de morts dans notre pays à cause de l'épidémie dans les prochains jours.
Et justement, à propos du Covid-19, je vous le disais dans les titres, 10 détenus du cachot du commissariat de police à Muyinga ont été testés positifs au Covid-19. Depuis, c'est la peur qui règne au sein des détenus du dit cachot. Ils craignent d'avoir été contaminés. La surpopulation dans les cachots, la négligence des autorités face à l'ampleur de la pandémie sont les principales causes de la propagation de ce virus. Jacob Sibomana.
Les informations que nous détenons de la part de nos sources au commissariat de police à Muyinga indiquent que jusqu'à ce mardi, 10 détenus du cachot de ce commissariat ont été testés positifs au Covid-19. À la fin de la semaine passée, certains prisonniers ont commencé à sentir les premiers signes. Ils ont alerté et ont été vite évacués à l'hôpital avant d'être testés positifs au coronavirus. Les services sanitaires se sont mobilisés pour faire le test à tous les prisonniers du dit cachot. 10 de ces détenus se sont avérés porteurs du virus. C'est la peur au sein des détenus du cachot du commissariat, car ils disent que même s'ils ont été testés négatifs, ils restent exposés à la contamination vu leurs conditions de vie. Selon les mêmes sources, les causes principales de la propagation du virus sont la surpopulation dans les maisons de détention, la promiscuité et la négligence des autorités de l'ampleur de la pandémie. Vous saurez que le cachot de commissariat de police à Muyinga a été construit en 1985 avec une capacité d'accueil ne dépassant pas 10 personnes. Actuellement, ce cachot héberge 24 détenus. Nous avons voulu joindre par téléphone le commissaire provincial de police à Muyinga pour qu'il nous dise ce qu'ils envisagent faire pour protéger contre le Covid-19 les prisonniers des cachots de police à Muyinga, mais sans succès.
C'est un sentiment d'espoir pour la relance de l'économie burundaise qui vient de voir le jour. Il est prévu les 18 et 19 novembre et donc les deux prochains jours un forum national sur le développement du Burundi. Les plus hautes autorités du pays, dont le président de la République, seront présentes. Faustin Dikoumana, expert en économie et directeur de l'ONG Parole et Action pour le réveil des consciences et l'évolution des mentalités, PARSEM, estime que c'est un pas franchi, car pour lui, ce forum vient à point nommé. Il encourage la mise en application des recommandations qui seront issues de ce forum. Écoutons-le.
C'est un événement très important et surtout qu'au PARSEM, on avait depuis longtemps réclamé l'organisation des états généraux et sur la situation économique afin de voir les défis et qui rentrent le Burundi au niveau économique et y trouver des solutions idoines. Et nous félicitons le gouvernement pour l'organisation de ce forum, moi-même et le président de la République qui met de l'énergie dans l'organisation de ce forum. Nous souhaitons que cette date vraiment soit une date fatidique pour lancer un nouvel ordre économique et de gouvernance. Analyse l'organisation de ce forum, on voit quand même une nouveauté. D'abord, le président de la République prétend diriger lui-même les assises du début à la fin. On était habitué à ce que les hautes autorités viennent dans les cérémonies d'ouverture et reviennent dans les cérémonies de clôture. Mais aujourd'hui, il va s'imprégner dans les débats, participer avec son gouvernement en entièreté du matin jusqu'au soir. C'est une nouveauté. Encore une fois, c'est une nouveauté où les intellectuels vivant à l'extérieur et les experts intellectuels vivant à l'extérieur et ceux vivant au Burundi rencontrent et discutent avec les preneurs de décision et au plus haut niveau alors. Preneurs de décision, pas n'importe lesquels, les preneurs de décision au plus haut niveau. Ça, vraiment, ça peut créer une valeur ajoutée. Mais nous recommandons quand même que les recommandations qui seraient issues de ces assises et qu'il y ait un cadre fort de suivi de ces mises en application. Et même nous sommes confortés par le fait qu'on voit que ce forum, c'est la première édition, il pourra y avoir d'autres éditions ultérieures où on pourra justement évaluer progressivement la mise en application des recommandations et arrêter. Notre demande est très importante, c'est d'inviter la population, essayer d'incarner l'action citoyenne et dynamique pour réclamer la mise en application effective de ces recommandations.
Terminons ce journal par ces brèves. Un homme connu sous le nom de Jean-Claude Vigilimana, âgé de 44 ans et son fils de 6 ans, sont morts noyés ce mardi en province Kirundo. Ils tentaient de traverser le lac Guihinda en pirogue. Cette dernière s'est renversée suite à des vents violents. Leurs corps ont été retrouvés ce mercredi matin. Ils provenaient de la colline Chewe et retournaient à leur domicile sur la colline Bugera, comme l'indique l'administrateur de la commune Kirundo, Viateur Habunimana. Et c'est ici que prend fin cette édition. Merci à la rédaction de la radio Inzamba, Agathe Katawe, pour la production de ce journal. À toutes, à tous, merci de nous rester fidèles. Au revoir.